l'Agora des Savoirs, des conférences ouvertes à tous. Une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création de l'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître? Sinon avec notre propre connaissance.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Mercredi 4 décembre 2013, E comme écrire, par Jean-Claude Monod, le surprenant triomphe de l'écriture. Il n'y a pas si longtemps, on a pu penser et annoncer que non seulement le livre, mais l'écrit en général, serait promis à une disparition inéluctable avec le développement de nouveaux médias audiovisuels, téléphone, télévision, vidéoconférence, webcam. Et nous vivons assurément un bouleversement de la civilisation de l'imprimé. Le livre classique, les journaux, connaissent une érosion et un déclin certain au profit de formes électroniques, sites web, e-books, échanges de vidéos. Mais tout se passe comme si l'écriture, elle, s'était émancipée du livre et de l'imprimé et connaissait une nouvelle vie avec ses nouveaux supports. E-mail sur les ordinateurs et maintenant sur les tablettes, texto ou SMS sur les téléphones mobiles et les smartphones, statuts et commentaires sur les réseaux sociaux, tweets. Loin d'une disparition de l'écriture, on assiste plutôt à la démultiplication de ses formes. Jean-Claude Monod, agrégé et docteur en philosophie, chargé de recherche au CNRS, tuteur au département de philosophie de l'École normale supérieure et co-directeur du master de philosophie contemporaine à l'ENS-EHESS, est l'invité de ce cinquième numéro de la cinquième saison de l'Agora des Savoirs.
Bonsoir, Jean-Claude Monod est docteur et agrégé de philosophie. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris, dont il est un ancien élève. Il est également chercheur au CNRS, rattaché aux archives Husserl, et il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Ses recherches portent sur la philosophie allemande post-hégélienne, et en particulier sur les rapports entre le religieux et le politique, et je crois savoir que son travail de recherche actuel porte sur la notion juridique d'usage des choses. On lui doit déjà plusieurs ouvrages, parmi lesquels on peut citer « Sécularisation et laïcité », publié chez PUF en 2007, ou bien encore, plus récemment, en 2012, « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie politique du charisme ?», publié, lui, au Seuil. On a souvent pu entendre prophétiser que les nouvelles technologies, qui placent en particulier l'écran au centre de leur utilisation, allaient faire reculer l'écrit, voire même mener éventuellement à la disparition du livre. Et on a même parfois affaire à ce qu'on pourrait appeler une véritable querelle des anciens et des modernes, les uns défendant la dignité du beau livre et les autres les formidables libertés offertes par nos modernes écrans. Et il est vrai qu'il est difficile de nier qu'il y a un recul de ce qu'on pourrait appeler la civilisation de l'imprimé, peut-être pas la civilisation de l'écrit, mais en tout cas la civilisation de l'imprimé, un recul du livre en tout cas, et de manière générale qu'on assiste à une véritable transformation de l'écriture. Mais d'un autre côté, on assiste, en tout cas c'est un paradoxe auquel on assiste, on n'a peut-être jamais autant écrit. Combien de temps, en effet, passons-nous à rédiger des textos, des mails ou tout simplement à commenter des statuts Facebook? Nous sommes bien encore dans une civilisation qui écrit, une civilisation écrivante. Et du point de vue de la masse totale des caractères et des messages échangés, au niveau mondial, peut-être même n'a-t-on jamais autant écrit. C'est donc plutôt peut-être de nouvelles formes d'écriture dont il faudrait alors parler, écriture qui s'émanciperait du livre, de la ligne, dont les supports se dématérialisent. Écrit et message qui se multiplient, qui se démultiplient peut-être même, et trouvent de nouvelles manières de s'adresser à leur destinataire. Comment donc ces nouvelles manières d'échanger des messages viennent-elles influer sur la manière dont on communique ? C'est précisément cette question qui est au cœur du sixième et dernier ouvrage de Jean-Claude Monod, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, donc, publié chez Flammarion et qui s'intitule « Écrire à l'heure du tout message ». Il s'agit d'un passionnant essai qui propose en particulier une réflexion sur les bouleversements induits par nos nouvelles manières de communiquer. On pourrait décrire son approche, mais je parle sous le contrôle de l'auteur, comme une forme de phénoménologie du message, dont la question directrice serait « qu'est-ce que s'adresser à ?» En quoi cela consiste de s'adresser à ? Dans ce livre, divisé en quatre actes, et de manière fort ludique finalement. Il s'intitule « Envoi, réception, objet et répondre », donc les quatre grandes catégories qu'on retrouve dans nos mails finalement. Il s'agit de comparer, d'analyser et d'articuler les formes anciennes et modernes de messages. Sans jamais idolâtrer ces nouvelles technologies, ni tomber pour autant dans une forme de technophobie qui est parfois un petit peu à la mode chez certains intellectuels, on y croise ainsi aussi bien des réflexions sur le statut du statut Facebook, un message qui se situe dans une zone grise entre le public et le privé, des analyses portant sur la fonction du messager du roi, ou encore une approche du message religieux, message souvent central dans ces religions que l'on dit justement du livre ou de la lettre. Mais l'une des forces de l'ouvrage, précisément, est de ne pas simplement recenser et juxtaposer cette variété de messages, mais bien de problématiser leur articulation, d'actualiser les interrogations anciennes à partir des nouvelles possibilités techniques modernes. Et de penser comment ces nouvelles manières de s'adresser à viennent modifier notre rapport à l'autre et à la communication elle-même. Un exemple de ces bouleversements induits par les nouvelles technologies, c'est une expérience que vous rapportez, Jean-Claude Monod, qui est celle de l'envoi involontaire d'un message, une expérience qui nous est sûrement arrivée à tous. On est en train d'écrire un message et involontairement, on appuie sur la mauvaise touche du clavier et le message se trouve envoyé avant même qu'on ait fini de l'écrire ou de le lire, ou de le relire. Alors c'est une expérience un peu triviale, mais justement, elle montre bien comment les nouvelles technologies viennent modifier notre rapport à la communication et en particulier à la temporalité de la communication. Là où la lettre manuscrite autorise une certaine latence entre l'écriture et l'envoi, une certaine lenteur peut-être, l'écriture sur support informatique, elle permet une autre forme d'immédiateté. Il y a une espèce de fatalité de la touche envoi, pour reprendre l'un des titres d'une des parties de votre ouvrage. On peut désormais envoyer un message avant même qu'il soit écrit, ou presque. Plus encore, au-delà d'un simple changement dans la rapidité de nos communications, cela implique également en fond de nouvelles manières d'interagir socialement face à ces nouvelles possibilités de communication et par-delà leurs avantages en termes de fluidité ou de rapidité dans les échanges, n'y a-t-il pas également un certain risque de brutalisation ou d'indélicatesse dans les rapports humains et sociaux? Et ce que l'on gagne en vélocité dans les échanges, ne le perd-on pas en civilité ou en politesse, voire même dans une forme dite d'authenticité? Est-ce qu'on ne perd pas aussi une forme d'authenticité dans son rapport à l'autre quand, par exemple, on peut consulter à tout bout de champ son portable alors qu'on est face à un ami ou à des proches? Alors la question se pose ici du point de vue de la petite morale, de la moralité ou de la civilité ordinaire, mais plus généralement, on peut se poser la question de savoir quelles en sont les implications du point de vue éthique, mais aussi diplomatique et politique. Il suffit de penser à des affaires récentes, on peut penser aux textos de DSK, ou encore on peut penser aussi à l'affaire Wikileaks, pour mesurer combien ces nouvelles technologies influencent jusqu'à la vie politique elle-même, au sens large du terme. En définitive, et avant de laisser la parole à Jean-Claude Monod, on peut dire peut-être qu'on renoue ici avec des questions finalement anciennes, déjà annoncées, je pense notamment à Platon, qui, évoquant l'écriture, décrivait son don aux hommes comme un pharmacon, c'est-à-dire à la fois un remède et un poison. Je pense que Jean-Claude Monod reviendra sur cette question-là. Et il me semble que cette ambiguïté propre à l'écrit est l'un des fils directeurs de l'ouvrage de Jean-Claude Monod. Quels sont les enjeux des transformations actuelles de l'écriture? Quels en sont les effets sociaux, au sens très large du terme, dans notre rapport intime, dans notre rapport à l'autre, aussi bien que du point de vue politique et démocratique? Telles sont les questions qu'aborde avec brio Jean-Claude Monod, auxquelles je laisse la parole pour vous les présenter et y répondre.
Merci beaucoup pour cette présentation très sympathique et juste de ce petit essai. Donc cette conférence que s'intitule « Eux comme écrire », donc j'ai un petit peu élargi le champ par rapport à la question que j'aborde dans le livre. Alors en 1985, des affichettes publicitaires lançaient une question aux passants. Pourquoi écrivez-vous? C'était le quotidien Libération qui la posait et qui annonçait ainsi un numéro spécial sur ce thème. Sur son blog, l'écrivain et médecin Martin Winkler, futur auteur d'un roman intitulé La maladie de Sachs, mais à l'époque, il n'avait encore rien écrit, rien publié plutôt. Martin Winkler raconte qu'il avait cru alors que le journal entendait ainsi interroger tout un chacun sur l'habitude d'écrire, d'écrire des lettres, d'écrire des cartes postales, ou de contribuer à des pages qui étaient alors très fréquentées et connues, notamment dans Libération, qui étaient les pages du courrier des lecteurs, où se mêlaient prises de position politique, réactions à des articles, petites annonces amoureuses ou clins d'œil entre lecteurs. Toutes choses qui ont été aujourd'hui à la fois démultipliées et remplacées par leur forme électronique sur Internet, commentaires et autres posts, blogs, sites de rencontres et réseaux sociaux, etc. Martin Winkler envoya donc sa réponse personnelle à la question « Pourquoi écrivez-vous ?» mais la rédaction de Libération fit savoir à ses lecteurs que celle-ci ne leur était pas destinée, qu'elle ne s'adressait pas au quidam, disons, elle était posée pour ce numéro spécial à un certain nombre d'écrivains, 400 écrivains, et préférentiellement à de grands écrivains, Julien Gracq, Marguerite Duras, etc. Alors Martin Winkler en fut très vexé, et il met en cause sur son blog le statut symbolique de l'écrivain en France, l'élitisme d'une vision de l'écriture et de la littérature qui entoure celle-ci d'une sorte d'aura de mystère, etc. Et il décida en conséquence de ne plus lire Libération. Bon, c'était... Alors, au-delà de l'anecdote, et si ce malentendu fut possible, c'est qu'écrire, évidemment, peut s'entendre, peut se comprendre et peut se dire en plusieurs sens. Il y a bien sûr l'écriture qui s'explore elle-même, l'art d'écrire, l'écriture dans sa forme la plus célébrée par l'écriture elle-même, l'écrire de l'écrivain, l'écriture littéraire. Celle donc qui avait en vue la question « Pourquoi écrivez-vous ?» Mais ce n'est là bien sûr qu'un aspect d'une activité ou d'une pratique beaucoup plus courante et plus banale. Et si on regarde simplement les sens énumérés par le dictionnaire, par exemple le Robert, le plus général serait sans doute celui-ci, tracer des signes d'écriture, un ensemble organisé de ces signes. Ou encore consigné, noté par écrit. Mais on trouve aussi, je cite toujours le Robert, rédiger un message destiné à être envoyé à quelqu'un, soit absolument, précise le Robert, faire de la correspondance. C'est une expression un peu surannée, me semble-t-il, faire de la correspondance. Voire correspondre. Le littré énonce comme quatrième sens adresser et envoyer une lettre à quelqu'un. C'est ce sens qu'avait en tête Martin Winkler, et le dictionnaire usuel qui est Flammarion précise s'adresser à quelqu'un par écrit. Alors dans le livre que j'ai publié, dont Julien parlait à l'instant, je me suis surtout attaché à ce dernier sens, à ce sens d'écrire à. Et je me suis effectivement posé cette question de savoir ce que signifie exactement s'adresser à quelqu'un par écrit, sachant que par écrit aujourd'hui, ça ne veut plus dire, ou ça veut dire de moins en moins souvent, avec une plume ou avec un stylo. Et je crois que ces changements techniques, technologiques, ont effectivement toutes sortes d'effets dans nos vies. En tout cas, donc, l'écriture est à la fois une pratique, une technique simple, une technique très simple et qui peut permettre de faire énormément de choses, d'opérations. C'est un instrument de communication, mais aussi de notation, de consignation pour soi-même, de liste, bien sûr, de mémorisation, et puis ça peut être un art. Et toutes ces dimensions coexistent aujourd'hui et sont affectées par les transformations technologiques, ces mutations qui font justement qu'il n'y a plus une page de courrier dans les journaux, mais des commentaires, enfin, ou bien... C'est réduit à la portion congrue, mais plutôt des commentaires postés par des internautes, etc. Écrire n'est pas une activité intemporelle, bien sûr, c'est une activité qui est affectée par ces conditions techniques d'exécution. Et si je reprenais la question « Pourquoi écrivez-vous ?» en l'adressant imaginairement à des scripteurs, à des gens qui écrivent à des époques différentes, je n'obtiendrais évidemment pas du tout le même genre de réponse. Par exemple, si je posais la question, c'est par un effet de transport dans le temps, si je posais la question à un scribe égyptien, à un marchand mésopotamien du 3e millénaire avant Jésus-Christ, à un historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'apôtre, ou dit le 13e apôtre autoproclamé, Paul de Tarse, rédigeant ses épîtres et les adressant à telle ou telle communauté des premiers chrétiens, à Corneille comme avocat et à Corneille comme auteur du Cid, à Anne Frank tenant son journal dans la cave où elle était cachée, à un journaliste, à un adolescent français qui échange, ce sont les chiffres de 2013 pour les 12-17 ans, qui échange en moyenne 435 SMS par semaine, à la compagne d'un président de la République rédigeant un tweet ravageur de soutien au concurrent électoral de l'ex-femme de son compagnon, ou un ex-président envoyant à celle qui n'était pas encore son ex-femme un texto peut-être fictif, d'ailleurs, si tu reviens, j'annule tout. Voilà. Donc les réponses à la question « Pourquoi écrivez-vous » seraient ici vraisemblablement presque aussi variées que les usages possibles du langage. Au fond, peut-être qu'on écrit « Pourquoi écrivez-vous » et pour autant de raisons que l'on parle et à des fins aussi diverses. Néanmoins, en philosophie, depuis Platon jusqu'à la phénoménologie, cette école de pensée d'origine allemande du XXe siècle, on est soucieux d'essayer de dégager de cette variété factuelle, empirique, et même de ces variations imaginaires, quelque chose comme l'essence ou l'idée de la chose, de chercher du moins ce qui résiste à la variation. Au fond, c'est la définition phénoménologique de l'essence. L'essence, ça n'est pas forcément quelque chose de, d'idéal, etc. C'est ce qui résiste à la variation, ce qu'on peut dégager comme idée, et qui permet peut-être de parler, oui, de l'écriture, ou de désigner toutes ces actions, malgré l'extrême diversité de leur support, hein, le parchemin, les tablettes d'argile, le smartphone, etc. Malgré l'extrême diversité de leur support, malgré l'extrême diversité de leur époque, de leur intention, eh bien on peut tout de même désigner toutes ces actions par un verbe unique, écrire. Et donc j'aimerais essayer de cerner quelque chose de propre à l'écriture en m'interrogeant sur un phénomène qui en est proche, je viens de l'évoquer à propos de la diversité des usages, mais qui en est tout de même distinct, à savoir bien sûr la parole, le langage parlé, la communication orale, qu'elle se produise dans l'interlocution directe ou par la médiation d'appareils téléphoniques, etc. Et la question serait alors moins générale, pourquoi écrire plutôt que parler ? Pourquoi écrire plutôt que parler ? Alors en première approche, en première hypothèse, il me semble qu'on peut répondre pourquoi écrire ? Eh bien pour fixer un contenu de pensée ou une information, quelle qu'elle soit, la résurrection du Christ pour saint Paul, comme le nombre de vaches vendues le matin même pour le marchand mésopotamien, pour conserver ces contenus de pensée ou ces informations pour soi-même, ça peut être un livre de comptes qu'on appelait en Grèce ancienne les hypomnémata, les carnets de comptes ou de consignation des pensées, le journal intime, les notes, ou bien sûr pour les transmettre, pour transmettre des contenus, des messages à un ou à des destinataires connus de soi ou inconnus, plus ou moins proches, etc. Donc là, on a, il me semble, un certain nombre de raisons d'écrire qui englobent un grand nombre d'opérations et de formes de l'écriture. Alors, une chose sur laquelle convergent, d'une certaine façon, où s'accordent les mythes de naissance de l'écriture et les historiens qui ont travaillé sur la naissance de l'écriture ou sur les naissances de l'écriture dans différentes civilisations, une chose sur laquelle les mythes et les historiens s'accordent, c'est peut-être l'idée que l'écriture a d'abord été une technique permettant donc de fixer des informations et ainsi de soulager la mémoire. Donc il y a cette dimension immédiatement évoquée, que l'écriture fonctionne comme aide-mémoire et technique, mnémotechnique, technique de liste, de tableau, de série. L'écriture comme mnémotechnique, ce lien apparaît dans deux mythes de naissance de l'écriture, l'un auquel Julien fait allusion à l'instant, celui qui est raconté dans le Phèdre de Platon. Donc vous connaissez peut-être ce récit, ce mythe, c'est le dieu égyptien Teut, qui est présenté comme l'inventeur du nombre et du calcul, l'inventeur de la géométrie et de l'astronomie, et qui est aussi celui qui serait l'inventeur des lettres et de l'écriture. Et ce dieu, dans ce récit, vient offrir toutes ses technailles, toutes ses techniques, ses arts et savoirs au roi Thammuz, et le roi l'interroge en retour sur l'utilité, l'avantage et les inconvénients de chaque art, technique, savoir. Lorsqu'il présente l'écriture, Teut dit au roi « Voici Tomatema, le savoir, la connaissance, qui rendra les Égyptiens plus savants ou plus sages, selon les traductions, Sophoterus, et leur donnera plus de mémoire, Mnemoticoterus, les rendra plus mnémotechniques, en quelque sorte plus capables de mnémotechnie. Le souvenir, Mnémé, et la sagesse, Sophia, ou la science, ont trouvé leur remède, dit Teut, pour vendre en quelque sorte son invention au roi Thammuz. Le souvenir et la sagesse ont trouvé leur pharmacon, dit le texte, donc c'est avec ce terme évoqué tout à l'heure, et d'une redoutable ambiguïté en effet, puisqu'il peut signifier aussi bien le remède que le poison. Enfin, tout remède d'ailleurs mal dosé peut tourner au poison, donc il y a ce danger constitué par l'écriture, qui est en même temps le don le plus formidable, peut-être, que peut faire Teut. Mais avant de venir à cette question de l'évaluation de ce don lui-même, on voit que, premièrement, l'écriture est associée à des techniques de décompte et de mesure, au nombre et au calcul, puisque Teut est en même temps l'inventeur du nombre, du calcul, de la géométrie, etc. Et deuxièmement, qu'elle est créditée d'une vertu de remède à l'oubli, d'auxiliaire de la mémoire, d'aide et de renforcement pour la connaissance, pour la science. Cette même dimension se retrouve dans un autre mythe, moins connu en Occident, un mythe sumérien sur la naissance de l'écriture cunéiforme. Et ce mythe-là pointe plutôt dans la direction de l'écriture message. D'ailleurs, en Grèce ancienne également, certains mythes associent la naissance de l'écriture à Hermès, c'est-à-dire au dieu des messagers, des marchands et des voleurs, d'ailleurs, de tout ce qui circule, et relie le dieu des liens, le dieu des réseaux, peut-être, dit Michel Serres. Mais je laisse là Hermès. Alors, que dit le mythe sumérien? C'est encore une histoire de roi. Le roi prêtre, ici, est à la fois roi et prêtre, Enmerkar envoie un messager dans une cité assez lointaine, une cité-état, Uruk, pour demander au souverain de cette ville, Uruk, des matériaux précieux, des pierres extraites des montagnes voisines, afin de construire un temple. Le roi d'Uruk n'est pas d'accord sur les conditions, donc une négociation s'engage, qui oblige le messager à faire d'innombrables allers-retours, si bien qu'à un moment épuisé, il a oublié à l'arrivée le message qu'il devait transmettre et qui était trop long. Alors le roi d'Uruk prend une tablette d'argile et, est-il dit, il dépose ses paroles. Les mots tombent dans l'argile sous forme de clous. Je ne sais pas comment s'opère cette... Voilà, l'écriture cunéiforme naît ainsi, les mots tombent dans l'argile. Alors, en quoi pouvais-je dire que ces mythes font écho aux thèses des historiens sur la naissance de l'écriture? Premier point, au fait que l'écriture semble bien avoir d'abord servi à compter, hein, c'est le Phèdre de Platon, compter les récoltes, compter les bêtes des troupeaux, mais aussi lister des dynasties, lister des familles, des mariages, des contrats. Elle a servi à commémorer des morts, surtout des grands personnages, des victoires, etc. C'est le cas en Mésopotamie, à Babylone, depuis le haut 3e millénaire avant Jésus-Christ. Des tablettes marquées d'un sceau pour formaliser une transaction se retrouvent même bien antérieurement dans une sorte de proto-écriture, l'écriture de choses, comme dit Jean Bottero, spécialiste de ces périodes. Et cette proto-écriture opère une numération, et bientôt une nomination, puisque les marques premières, qui sont simplement des empreintes dans l'argile, deviennent petit à petit des dessins, des pictogrammes. Et on remarque d'ailleurs que le mot même de gramme dit à la fois la lettre et l'unité de mesure. Donc il y a cette proximité première de la mesure et de l'écriture. Et puis ensuite, ça devient des signes renvoyant sans doute à des noms propres. Et puis vient le moment de la phonétisation, c'est-à-dire que les signes représentent maintenant, au bout d'un temps, des sons, des syllabes, etc. Deuxième point, un autre lien suggéré par ces mythes et confirmé par les historiens de l'écriture, c'est l'inscription de son apparition dans le cadre de cité-état, c'est-à-dire dans des organisations sociales, urbaines, assez hiérarchisées et dotées d'administration, une administration royale ou impériale, en Mésopotamie, en Égypte, bien sûr, en Chine, plus tard dans l'Empire romain, on a un développement de l'écriture et un développement d'ailleurs de réseaux de messagers. Et pour développer un réseau de messagers, il faut des relais de poste, des chevaux, et ça, il faut une administration considérable. Et il la faut justement pour gérer ces grands territoires à partir de centres urbains, de centres de pouvoir. Et l'écrit ici sert à mailler le territoire, à compter et à cartographier les zones agricoles, la population, mais aussi à transmettre des ordres, à faire proclamer partout dans le territoire des décrets, des lois, à unifier par l'écrit le territoire. La pratique de l'écriture est ici très longtemps le fait de spécialistes, de professionnels de l'écriture, peuvent être une classe ou un corps de scribes, de fonctionnaires, parfois de prêtres d'ailleurs, dotés de connaissances diverses, calligraphiques, parfois des juristes, etc. Le troisième point évocateur de ces mythes a peut-être moins un intérêt historique cette fois que philosophique ou spéculatif sur l'écriture. Teut, je l'ai dit, est le dieu de la géométrie, etc., mais c'est aussi le dieu des morts en Égypte. Et en Égypte, on trouve aussi des textes écrits sur les tombes, sur les sarcophages, adressés aux dieux ou aux passeurs vers le monde des morts. C'est que l'écriture, bien sûr, survit. Elle ne passe pas si vite, elle ne s'envole pas comme la parole, comme dit l'adage, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Elle a ainsi la faculté de parler non seulement à la place de l'auteur, mais en son absence et même après sa présence, si je puis dire, au sens radical du terme, après sa mort. Et c'est sans doute le philosophe français Jacques Derrida qui a le plus insisté sur cette dimension de l'écriture. L'écriture se détache de la présence s'absente dans l'écriture, la chose devient signe, l'écart, l'espacement même entre les lettres et la condition d'un sens. L'écriture témoigne, aussitôt tracée, elle peut me survivre, de sorte qu'il y a toujours en elle quelque chose, dit Derrida, de testamentaire. Formule figure dans son livre de la grammatologie, cette science imaginaire de la lettre, de l'écriture, que Derrida projette un peu ironiquement d'ailleurs, et où ce livre où Derrida annonçait avec justesse, à mon avis, l'émancipation du gramme de l'écrit vis-à-vis de la ligne, du livre, etc. Et donc, Derrida a cette formule un peu opaque, mais tout graphème, c'est-à-dire toute chose écrite, est d'essence testamentaire. Autrement dit, toute écriture est d'emblée prise dans un processus qui la détache de la présence de l'auteur, de la vie de l'auteur, de l'intention même. Toute écriture est potentiellement testamentaire et orpheline. Et dans le Phèdre, c'est précisément ce fait que Socrate objecte à l'écriture, c'est-à-dire le fait que l'écriture se détache de son scripteur, qui est pour Socrate la faiblesse majeure de l'écriture par rapport à la parole. Socrate estime qu'une différence majeure entre la parole et l'écriture, c'est le fait que dans la parole, le locuteur est là, il peut donc répondre de ce qu'il dit, il peut répondre aux autres, il est responsable de sa parole, qu'il peut reprendre, corriger, infirmer, expliquer. Alors que l'écrit, note Socrate, se tait lorsqu'on lui pose des questions, bien sûr. L'écrit se tait. Et il est vrai que, par exemple, dans une conférence, même dans cette conférence, même si je lis un texte largement écrit d'avance, vous pourriez m'interrompre, Nous pourrons discuter, vous pourrez me contredire et me demander de répondre de ce que j'ai dit, de préciser telle ou telle chose. Et c'est cette interlocution et cette présence qui font l'intérêt de la parole pour Socrate, l'intérêt irremplaçable par rapport à quoi toute écriture est en un sens une chose morte. C'est devenu un lieu commun, peut-être, de cette opposition que d'estimer que la parole est vivante, capable d'interlocution et de réponse, tandis que l'écrit serait, l'écriture serait morte, coupée de sa source vive et par là même irresponsable, manipulable. Et Derrida, précisément, a contesté cette vision, une thèse très fameuse et discutée d'ailleurs de Derrida, et que cette position de Socrate, cette dévalorisation de l'écriture comme dérivée, secondaire, morte, renvoie à une structure profonde de la pensée occidentale, à une sorte de métaphysique qui valorise la présence, la supposée présence à soi du logos. Et cette métaphysique s'est composée dans la tradition occidentale avec une théologie du verbe, autre logocentrisme, autre valorisation de la parole qui dévalue l'écriture, la lettre tue, l'esprit vivifie, comme dit saint Paul. Alors, on peut contester, on peut se demander ce que Derrida fait du fait qu'il s'agit de religion du livre, des écritures, du testament, etc. Et je ne développe pas cette conclusion, je voudrais plutôt reprendre un niveau beaucoup plus quotidien, beaucoup plus actuel et peut-être beaucoup plus trivial, cette question des avantages de l'écriture et de sa dimension de détachement, d'expression in absentia, en l'absence du locuteur, de sa voix, de son corps. Il me semble en effet qu'il y a une sorte de délicatesse de l'écriture, délicatesse qui contribue peut-être non seulement à sa survie, mais à ce que je qualifierais même d'explosion de l'écriture aujourd'hui dans sa forme, dans ses formes les plus quotidiennes, les plus technologiques aussi, hein, tous ces emails, textos, etc., qui ont envahi notre quotidien. Alors, en quel sens puis-je dire qu'il y a une délicatesse et peut-être quelque chose de très séduisant dans cette faculté de distance, d'action à distance de l'écriture, de discours à distance. Chacun, je crois, a pu faire l'expérience de l'épreuve que constitue parfois une conversation téléphonique. Pour appeler une personne sur qui on a des visées amoureuses sans avoir l'air trop lourd, par exemple, ou ridicule, ou pour faire telle ou telle demande délicate d'un service, d'une aide financière ou autre, pour demander des explications, il faut parfois s'armer de courage. Pourquoi ? Parce qu'on s'expose bien sûr à un refus, à un rire, à l'indifférence, mais aussi parce que notre voix même n'est pas un instrument neutre que nous maîtrisons parfaitement, elle trahit. Elle trahit nos émotions, elle peut trahir notre gêne, elle peut trahir notre timidité, etc. L'écriture, elle nous expose moins, elle n'est pas une expression physique et naturelle, comme la voix, mais déjà un instrument, un média, une technique objective, et on peut bien sûr s'y reprendre à deux ou trois fois, choisir ses mots avant en voix. Et l'épreuve du face-à-face, même du simple face-à-face vocal, hein, le fait d'être exposé par sa voix au moment de prononcer les mots décisifs, nous est épargné. Donc l'écriture, en ce sens, est un peu l'aubaine des timides, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi peut-être d'ailleurs une forme de lâcheté de l'écriture. Et d'ailleurs, on entend, j'ai lu pas mal de choses sur la pratique des SMS, etc., on entend souvent, on voit cette récrimination. Un tel n'a même pas osé me le dire en face. Il m'a annoncé notre rupture par SMS. Parce qu'effectivement, là, on n'est plus du tout dans la délicatesse de l'écriture, n'est-ce pas ? On est plutôt dans la brutalité du message et peut-être dans la lâcheté de l'écriture. Et il y a bien sûr, il peut toujours y avoir, c'est le pharmacone de l'écriture, une brutalité, une désinvolture ou une froideur dans l'écrit électronique. Mais c'est peut-être l'envers de sa capacité à instaurer un échange qui n'engage pas le corps et qui maintient une distance, un temps de réponse, un délai, une différence, comme disait Derrida, au sens actif du terme. On peut différer la réponse. Et bon, on insiste bien sûr à juste titre sur le caractère d'instantanéité de transmission du SMS par exemple, du texto ou du mail. Mais ce qui le distingue malgré tout d'un appel téléphonique, c'est qu'il s'agit d'une instantanéité non combinatoire, qui ne vous oblige pas à répondre immédiatement. La sonnerie, téléphone, vous enjoint de répondre immédiatement et sans délai, et il y a donc quelque chose d'intrusif dans un appel qui nous est épargné par un message écrit. Et d'ailleurs, on commence parfois une conversation téléphonique par « j'espère que je ne te dérange pas ». Ce n'est pas nécessaire de décrire ça au début d'un message, sauf que je laisse de côté la forme des chats, etc., qui complique un peu, parce que là, on a une disponibilité attendue. Mais en tout cas, l'appel téléphonique nous convoque, nous sommes de répondre ou de ne pas répondre, mais le fait de ne pas répondre est un certain choix. Si vous avez laissé sonner, vous ne répondez pas, bon, ça peut prendre une certaine signification, c'est-à-dire « je ne suis pas là pour toi ». Voilà. Alors que le message électronique nous laisse toujours cette marge et par là même le loisir de songer à la meilleure réponse, hein, de songer à une réponse appropriée. Mais est-ce qu'on ne rencontre pas alors une limite essentielle de ce qu'on... D'ailleurs, on a une difficulté aujourd'hui à appeler ça peut-être des correspondances. On ne parle plus de correspondances pour ces formes d'échange d'écriture électronique. La limite essentielle, ce serait justement le fait qu'elle semble éviter, et peut-être cherche à éviter l'intensité même du face-à-face, mais aussi le sérieux de la correspondance à l'ancienne qui engageait peut-être davantage, hein, où l'acte d'écrire pouvait se traduire par des lettres immenses, où la pensée pouvait se déployer, et où la littérature pouvait d'ailleurs s'inviter, comme on le voit dans les merveilleux romans par lettres du XVIIIe siècle, depuis leurs versions les plus sentimentales, comme la Nouvelle Héloïse de Rousseau, jusqu'à leurs variations les plus rusées et les plus stratégiques, comme les Liaisons dangereuses de Laclos. Alors certes, les Liaisons dangereuses ont été adaptées au théâtre... au temps du téléphone portable et des textos, ou des sextos, comme on dit aussi. Et certains romans américains nous restituent les échanges assez peu signifiants et parfois très peu poétiques entre adolescents sur le chat de Gmail. Il y a un roman américain intéressant là-dessus qui s'appelle Richard Yates de Taolin, où on a une suite d'échanges très très quotidiens. Mais c'est une littérature minimaliste et les longues lettres réfléchies, ironiques et très bien construites, très bien écrites de Valmont ou de Verteuil relèvent clairement d'un autre âge de la correspondance, un autre âge de l'écriture. L'écriture se rétracte aujourd'hui, elle se démultiplie, mais elle se rétracte aussi vers des formes brèves, généralement moins raffinées que celles que je viens d'évoquer. Moins investi aussi peut-être de sens. Et au fond, il y a cette dimension d'accélération qui est une dimension des techniques contemporaines. Il y a un livre d'un sociologue allemand contemporain qui s'intitule « Accélération ». Il note que l'accélération est une des données du monde contemporain, notamment l'accélération technique et l'accélération des techniques et l'accélération de la péremption des techniques et des accessoires techniques où il faut se procurer le dernier accessoire technique qui va encore plus vite, qui en passe du 3G au 4G, etc. Bon, il y a toute cette espèce d'accélération qui n'a pour fin d'ailleurs que de favoriser l'accélération même des échanges. Et d'autre part, bien sûr, l'écriture électronique n'a plus le tremblé et la personnalité de l'écrit à la plume ou au stylo, elle n'est plus trempée de larmes ou parfumée. Et là aussi, donc, il y a un effet de dématérialisation qui a accompagné l'essor du message électronique. D'ailleurs, cette dématérialisation concerne même le courrier, la forme du messager. Aujourd'hui, il y a des messageries sans messager, donc il n'y a plus ce corps qui transporte la lettre. Le messager a disparu. Et la rencontre virtuelle elle-même peut être extrêmement anonyme ou, disons, dématérialisée. Alors, sans doute, d'ailleurs, le degré paroxystique de cette dématérialisation apparaît-il dans ces situations où un serveur électronique, pour un achat ou je ne sais pas, nous demande de prouver que nous ne sommes pas une machine. quand même. Là, on vous demande de composer un code, CAPTCHA, ce qu'on appelle un code avec des lettres, de copier un mot pour être sûr que vous n'êtes pas une machine. Bon, alors, bien sûr, on peut déplorer hein, ces dimensions d'impersonnalité, de dématérialisation et de virtualité qui accompagnent l'échange électronique, mais peut-être que c'est aussi l'envers de ces dimensions que je citais tout à l'heure, et sur lesquels ont travaillé aussi des sociologues qui ont étudié un peu ces pratiques d'échange chez les adolescents, pourquoi certains échangent comme ça des centaines de SMS par semaine. Et un livre d'une sociologue américaine a donné justement une sorte de vue d'ensemble où elle suggère que ce qui est cherché justement c'est une sorte de contact sans intimité, un contact, on multiplie les contacts sans véritable intimité. Un lien à distance qui peut être permanent, mais qui est au fond moins troublant, moins pesant que les relations, que la proximité physique. Et elle a donné, elle s'appelle Sherry Turkle, et elle a donné à cette enquête le titre suggestif de Alone Together, c'est-à-dire seul ensemble, à la fois seul et ensemble. Les individus sont seuls, mais reliés, et partout où ils sont, ils s'isolent dans une espèce de bulle. Et ils se détachent de l'interaction familiale ou scolaire ou professionnelle pour communiquer avec leurs amis ou contacts, et donc pour rester en un sens entre eux, donc together, ensemble, mais ensemble même ils resteront connectés à d'autres, donc ils seront aussi toujours un peu ailleurs même ensemble. Donc il y a toujours cette dimension où l'ailleurs paraît toujours en même temps plus intéressant qu'ici. Et donc, il y a toujours cette ambiguïté, peut-être cette ambivalence où l'utopie de la communication, etc., cache une sorte d'anti-utopie ou de contre-utopie où les individus sont tous derrière leur portable, etc., ils ne se disent plus rien. Donc ça, c'est la version, évidemment, un peu contre-utopique de l'utopie technique de la communication universelle. Cette écriture électronique induit donc une forme de présence à autrui qui est là aussi marquée d'une certaine absence à autrui en même temps, et une sorte de complicité éventuellement continue avec des amis, etc., mais qui est quand même toujours médiée par des machines, qui n'est pas le face-à-face ou qui ne se résout pas dans le face-à-face. Elle se traduit aussi stylistiquement, mais ça je ne vais pas m'y arrêter, par un style d'écriture là aussi bref, cool. Il faut écrire cool si on écrit un texto, etc. Vous n'avez pas à écrire des grandes formules de politesse infinies, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le format, la technique dicte un format qui dicte un style. Et ce style d'ailleurs est d'une certaine inventivité. Les linguistes qui, non, je n'ai pas de tableau, mais vous connaissez tous ces mélanges de chiffres et de lettres qui font qu'on abrège au maximum, on a des choses qu'on écrira demain avec un 2, quoi de 9, 9 lol, des trucs, des virgules, des parenthèses qui deviennent des sourires, etc. Donc, au fond, on utilise aussi toutes les dimensions qu'on appelle en linguistique iconique du signe, c'est-à-dire le fait que le signe peut être aussi une image, avec les smileys, les émoticônes, etc. Donc il y a une combinaison entre l'écriture alphabétique et l'écriture idéogrammatique qui fait que finalement cette forme d'écriture très contemporaine réactive des formes très anciennes aussi d'écriture. De même d'ailleurs qu'en mêlant souvent des termes anglais, ou enfin de l'anglais peut-être du ce qu'on appelle du globish, peut-être du global English, avec le français, ou éventuellement en mêlant d'ailleurs d'autres langues, de l'italien ou de l'arabe, etc., on a un recours à un procédé, alors qui n'est pas pensé comme tel, mais qui est un vieux procédé rhétorique. Par exemple, si vous lisez la rhétorique d'Aristote, et la poétique d'Aristote d'ailleurs, Aristote dit qu'un des moyens de rendre la langue piquante, comme il dit, un discours piquant, intéressant, c'est d'y mêler des termes étrangers. Donc, vous voyez, finalement, on retrouve dans les pratiques contemporaines des vieux procédés rhétoriques. Moi, j'ai un ami qui conclut toujours ses textos par « bis a tutti ». Bon, « bis a tutti », c'est un peu... Voilà, bah, c'est sa marque de fabrique, et en même temps, voilà, c'est un vieux procédé qui mêle des langues diverses. Alors bien sûr, je ne veux pas donner un tableau non plus tout à fait sans nuages et idyllique hein, de ces techniques de messages et de ces formes nouvelles. On peut dire qu'un certain modèle de culture et d'éducation humaniste, classique est certainement mise à mal par, peut-être pas par les formes elles-mêmes qui sont souvent effectivement passablement déstructurées syntaxiquement et orthographiquement, mais même par la sollicitation permanente des messages et des écrans d'ailleurs sans doute. Et cela, c'est une chose, effectivement l'humanisme classique renvoie à une certaine discipline de l'écriture et de la lecture, peut-être à une certaine époque de l'écriture et de la lecture. C'est-à-dire il faut penser que l'écriture n'est pas seulement un médium au sens où ça nous permet de communiquer des choses, c'est quelque chose qui affecte les manières de penser, les manières de se comporter peut-être. C'est-à-dire si vous avez appris à écrire d'une certaine façon, si vous avez appris à écrire comme moi et comme beaucoup de gens dans cette salle, sur une table avec un stylo, assis pendant des années, voilà, ça induit un certain style d'apprentissage plus général, où l'écriture est un moment de cet apprentissage qui passe par une certaine discipline du corps, du geste, par une certaine patience, et qui développe certaines dispositions intellectuelles et corporelles presque, qui favorisent à leur tour une maîtrise, une capacité de concentration et d'attention. Alors toutes ces choses n'ont pas disparu du jour au lendemain, bien entendu, elles existent encore, bien sûr. Mais il est effectivement plus difficile de les obtenir en classe, par exemple, ou même dans un amphithéâtre d'université, sans doute parce que les formes d'écriture impliquées par l'humanisme classique, hein, par ces images des érudits de la Renaissance avec leurs pupitres, des écoliers sur leur table, etc., toute cette pédagogie là était liée à une forme d'écriture aussi. Néanmoins, il est assez difficile, hein, de prendre en vue vraiment les effets sociaux et politiques d'une transformation technique majeure, et je pense que ces nouvelles techniques d'écriture sont une transformation technique majeure dont les effets s'exercent dans tous les champs et de manière très diversifiée et inattendue, et j'aimerais m'attarder là-dessus dans un dernier temps. Au fond, il y a une manière classique d'approcher cette question de l'évolution conjointe des techniques et, disons, des formes de vie. On considère que les techniques influent sur les formes de vie et sur les formes de pensée, sur les formes de vie politique, mais aussi sur les formes de vie de l'esprit. Et il y a un modèle, au fond, qui a été fourni pour appréhender ces changements, et il serait fourni par un très fameux chapitre du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, livre 5, chapitre 2. C'est le modèle « Ceci tuera cela ». Donc dans le roman d'Hugo, c'est ces paroles énigmatiques, dit-il, sont prononcées en 1482 par Claude Frollo, l'archidiacre de la cathédrale de Notre-Dame, par ailleurs amoureux fou et torturé d'Esmeralda, mais je laisse ça de côté parce que ça n'a pas tellement de pertinence ici. Et dans ce chapitre, il médite, Frollo, sur l'apparition récente du livre de l'imprimerie. En 1482, le livre et l'imprimerie apparaissent. Et Frollo regarde ce nouvel objet, le livre, qu'il tient dans ses mains. Puis il tourne ses yeux vers un vitrail de son église et il pense « Ceci, le livre, tuera cela ». Le vitrail. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie d'abord que l'écriture, accessible à plus ou moins long terme au peuple, et potentiellement à tous, grâce à ceci, grâce au livre, va permettre la diffusion de la Bible de papier, comme dit Hugo, donc rendue possible par l'invention de Gutenberg. Or cette diffusion du livre, de la Bible, serait vouée à tuer cela, l'art du vitrail et de l'architecture, présenté par Hugo symétriquement comme une Bible de pierre. C'est une façon d'exprimer la Bible dans la pierre, dans le vitrail. Le vitrail, les sculptures, l'architecture religieuse visaient à rendre visible, sensible, accessible au peuple analphabète le récit sacré par des images, des sculptures, etc. La sentence « Ceci tuera cela » prend aussi une autre portée dans le développement que lui donne Victor Hugo. C'est l'idée que l'accroissement de l'instruction à travers l'écriture, à travers le livre, à travers la pédagogie de la lecture. Mais tout ça est corrélé par Hugo à la perspective d'un déclin, sinon de la religion, du monde, ce qu'il appelle la théocratie. C'est-à-dire de la position dominante des clercs, des prêtres, de l'Église dans la société médiévale. Les clercs, par excellence, c'était ceux qui avaient ce rare savoir de la lecture, de la lectio, de l'interprétation, de l'herméneutique des écritures sacrées. Et le profane, le peuple, c'était la masse de ceux qui ne savaient pas lire, hein, les laïcs, et qui n'avaient donc pas d'accès direct à la parole de Dieu, et qui avaient besoin, bien entendu, de la médiation sacerdotale, la médiation des prêtres, pour y accéder. Ouvrir l'accès par la lecture au texte sacré, pour Hugo, c'est préparer une contestation de l'autorité ecclésiastique, que l'on voit à l'œuvre bientôt, dès le XVe siècle, dans tous les mouvements de réforme plus ou moins radicale de l'Église et finalement dans la réforme majuscule luthérienne, protestante, etc. Mais avec la contestation du pilier de l'autorité ecclésiale, c'est aussi l'autorité royale, la monarchie absolutiste, de droit divin, etc., qui devait être contestée selon Hugo, d'où le mouvement qu'indique Hugo et que pressent Frollo avec effroi, de la théocratie à la démocratie. Hugo écrit « Toute civilisation commence par la théocratie et finit par la démocratie ». Alors, bon, c'est un évolutionnisme historique assez contestable, hein, peut-être une philosophie de l'histoire du XIXe siècle, un peu, si on veut, naïve, mais il est vrai, en tout cas, que l'écriture, la diffusion de l'écriture, ont servi d'instrument de diffusion non seulement de la Bible, bien sûr, mais aussi de la philosophie des Lumières, ensuite des encyclopédistes, des traités pour la tolérance, de Rousseau, du contrat social, etc., et d'une critique protéiforme de pamphlets contre la monarchie, contre la cour, de manifestes appelant à la sécularisation des biens du clergé, à l'abolition des privilèges nobiliaires, etc. C'est le règne de la critique, c'est le règne du pamphlet, et tous ces premiers journaux, toutes ces imprimeries clandestines donnent une diffusion considérable à cette forme de critique sociale, si l'on veut, permise par l'imprimerie, permise par l'écriture. Au XXe siècle, soit quelques temps après cet épisode fictif que Hugo situait donc en amont du triomphe de l'écriture, on a pu appliquer à son tour à l'écriture même une prévision analogue. Julien y faisait allusion tout à l'heure, non seulement le livre, mais l'écrit en général serait promis une disparition inéluctable avec le développement de nouveaux médias audiovisuels, le téléphone, la télévision, la visioconférence, la webcam. Ceci tuera cela. Est-ce que nous sommes les contemporains d'une fin de l'écriture ? Il y a eu récemment des dossiers de journaux, etc., par exemple Courrier International, qui justement s'intitulait « La fin de l'écriture », avec une plume en couverture qui était cassée. Mais en l'occurrence, ça avait un sens assez restreint. Ce dossier évoque le fait qu'aux États-Unis, par exemple, un grand nombre d'États, 45 États fédérés, ont décidé de diminuer le temps d'apprentissage de l'écriture à la main, l'écriture manuelle, l'écriture cursive, au profit du clavier. Donc les enfants apprennent à écrire directement sur ordinateur. Pourquoi ? Alors, pour toute une série de raisons, mais l'un des arguments avancés, c'est que, au fond, cette écriture par ordinateur est plus simple à corriger. On n'est pas à déchiffrer les pattes de mouche, etc. Bon. Et, selon certains pédagogues, elle est moins inégalitaire. Parce qu'au fond, quand on apprend à écrire sur un clavier, voilà, tout le monde a à peu près la même disposition, etc. Alors que l'apprentissage de l'écriture cursive ou manuelle fait davantage apparaître des inégalités héritées. Il semble que l'apprentissage de l'écriture manuelle ne sera même plus obligatoire dans un certain nombre de ces États américains à partir de 2015. Et c'est peut-être un mouvement, j'ai rencontré une linguiste qui me disait « c'est absolument irréversible, inéluctable, voilà, maintenant dans quelques décennies tout le monde apprendra à écrire par ordinateur partout en Europe ». Alors ça, je sais pas, moi je suis un peu sceptique sur les... Mais bon, je suis un peu sceptique d'ailleurs parce que paradoxalement, il y a aussi un autre mouvement qu'on observe aux États-Unis, un mouvement inverse, qui est que justement dans les endroits comme la Silicon Valley, qui sont les endroits où ont germé ces techniques, apparaissent des écoles destinées plutôt aux enfants de l'élite de la Silicon Valley, qui sont des écoles sans écran, sans ordinateur, où les enfants font de la calligraphie, etc. Alors on peut dire, bien sûr, bon, ils ont les ordinateurs à la maison, et ils n'ont pas besoin d'apprendre le clavier à l'école. Mais il y a l'idée que ces apprentissages, la calligraphie, le geste d'écrire, etc., développent, permettent le développement de qualités, de raisonnement, d'attention, etc. Et que donc, vous voyez, une sorte de distinction, au sens que Bourdieu donnait à ce terme, c'est-à-dire une distinction sociale qui passerait maintenant par la capacité à savoir se passer de l'ordinateur, à savoir aussi écrire à la main, etc. Donc je crois que tout ça n'est pas du tout joué définitivement. En tout cas, il me semble que nous vivons certainement un bouleversement qui touche la civilisation de l'imprimé, on l'a dit tout à l'heure, le livre classique, les journaux connaissent une érosion et un déclin certains au profit de formes électroniques, les sites web, les e-books, les échanges de vidéos, etc. Mais on peut dire aussi que l'écriture, elle, s'est détachée du livre et de l'imprimé et connaît une nouvelle vie avec ses nouveaux supports qui font que, voilà, on passe son temps de cette façon à répondre, à écrire sur tous ces supports, les statuts, les commentaires des réseaux sociaux, les tweets, les SMS, etc. Et donc là où on avait pu attendre et prédire une disparition de l'écriture, on assiste plutôt à sa démultiplication, au développement d'une sorte de graphomanie électronique, en un sens, qui fait qu'on peut dire qu'on a, on peut dire sans paradoxe, mais contre toute attente, qu'on n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il faut y insister parce que c'est tout de même là aussi une mutation sociologique et même anthropologique très très importante, dans la mesure où ça traduit aussi, bien sûr, des phénomènes de longue durée, en quelque sorte, notamment l'alphabétisation de masse, le fait que de plus en plus de gens peuvent écrire dans le monde, bien sûr, hein, si on sait. Et bien sûr, le fait que se développent et se propagent ces instruments, ces technologies qui permettent le message, la connexion permanente, etc. Donc il y a un aspect, bien entendu, de démocratisation de l'écriture qui fait que l'écriture n'est plus l'apanage d'une élite, le critère même de distinction entre les lettrés et le vulgaire, aussi bien qu'entre les peuples, d'ailleurs autodésignés civilisés, et les peuples dits primitifs parce que sans écriture, tout ça est en train de tout à fait s'abolir et on voit cette prolifération de l'écrit. Bien sûr, tout cela est aussi possible parce que des intérêts économiques considérables sont en jeu dans cette expansion du champ du message permanent, qui est accompagné aussi par une sorte de matraquage publicitaire, d'idéologie publicitaire omniprésente, qui nous dit sans cesse que nous devons être connectés 24 heures sur 24, que plus nous communiquons, plus nous sommes heureux, qu'on doit toujours être multitâche, multi-contact, qu'il faut avoir le maximum de contacts possibles, et que vous devez filmer, poster, commenter tous les événements de votre vie, des plus triviaux aux plus importants. Vous pouvez commenter votre dépucelage sur Twitter et poster le film de votre accouchement sur Facebook. Il y a cette sorte d'expansion de la mise en scène de soi, de la privation de l'intime ou du privé qui est appelée en quelque sorte par ces techniques et par l'idéologie qui les accompagne, par cette économie politique de la communication dont parlait Jean Baudrillard dans les années 70, et comme une sorte d'idéologie planétaire qui invite bien sûr à communiquer, mais aussi à communiquer pour consommer, à communiquer en consommant, et qui se double d'ailleurs de l'extraordinaire somme d'informations que les internautes donnent spontanément et souvent à leur insu sur eux-mêmes, aux États, mais aussi aux annonceurs, aux algorithmes commerciaux qui calculent nos souhaits et nos besoins, avec d'ailleurs ces effets un peu comiques. Si vous tapez un message sur Facebook, moi j'écrivais à un collègue pour lui dire qu'il fallait qu'il lisse un peu son texte pour telle ou telle revue, et aussitôt j'ai eu un message publicitaire me proposant un lissage japonais pour ma magnifique chevelure ondulée. Donc ça, c'est les surprises d'Internet. Mais nous avons certainement besoin, hein, à cet égard, d'une nouvelle critique de l'économie politique des signes, comme disait Baudrillard, et des messages. Et nous avons besoin, voilà, de quelque chose qui nous procure une certaine distance vis-à-vis de cette incitation permanente à la mise en scène de soi, peut-être. Alors, bien sûr, en disant cela, je laisse de côté tout une problématique importante d'aujourd'hui et sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, qui est la question des effets de démocratisation, non seulement au sens que je viens de lui donner, c'est-à-dire la démocratisation à travers l'alphabétisation de masse, mais aussi la démocratisation qui se situerait dans le prolongement de cette démocratisation liée à la diffusion de l'écrit et de l'imprimerie, ou à son équivalent actuel. On a souvent dit, et j'ai évoqué ce fait, là, que les imprimeries, les journaux ont joué un rôle capital dans l'apparition de ce qu'on a appelé l'opinion publique, de ce qui s'appellera même pendant la Révolution française l'œil public. L'œil public, c'est cette sorte de fonction de surveillance des gouvernants, des puissants éventuellement, par l'œil du peuple. Et cette fonction est assumée par la presse libre, qui doit être, bien sûr, qui devait être, et qui a été un vecteur décisif de la critique politique, de la critique sociale, dénonçant les détournements, la corruption, l'oubli de l'intérêt public, etc. Donc toutes ces dimensions, toutes ces exigences de transparence, de contrôle des comptes publics, de diffusion des informations, d'observation et d'interpellation des gouvernants, ce sont des dimensions qu'on retrouve là aussi comme démultipliées par les nouvelles technologies, par la possibilité de divulguer à très très vaste échelle et en se passant et en passant outre toute une série de mécanismes de contrôle qui existaient encore pour la presse, pour le papier, et qui sautent d'une certaine façon, toutes ces écluses sautent avec Internet, avec l'Internet 2.0, avec la possibilité pour tout un chacun de poster des informations, de divulguer, de communiquer à très grande échelle. Et on l'a vu bien sûr avec l'affaire Wikileaks par exemple, avec la possibilité pour un soldat de copier des centaines de milliers de documents confidentiels de l'administration américaine et de les divulguer mondialement. Donc il y a bien sûr toute cette dimension qui lie espace public, opinion publique, publication, mais avec la transformation de ce qui s'appelle aujourd'hui publication, puisque chacun peut publier d'une certaine façon, chacun peut rendre public sur sa page, etc. Et chacun peut divulguer. Mais évidemment, là encore, on a typiquement un pharmacon redoutable, c'est-à-dire quelque chose qui peut être une chance et qui est une chance de contre-pouvoir par rapport à des instances économiques ou politiques qui n'ont pas forcément envie que soient divulguées des informations ou des exactions, d'ailleurs, ou des dangers. Mais là aussi, ça peut toujours se retourner contre les individus, et on le voit là aussi quotidiennement à travers les possibilités de surveillance offertes par ces nouveaux médias. Donc je crois qu'on est vraiment tout à fait dans cette situation de pharmacon et dans cette mutation qui fait que, bien sûr, le partage des zones privées et publiques, aussi bien dans la sphère politique que dans la sphère intime, est très mobile aujourd'hui, est en train de prendre l'eau d'une certaine façon de toutes parts. Et peut-être que chacun ici a pu faire l'expérience, ou pourra la faire, d'une divulgation non souhaitée d'un message diffusé à d'autres destinataires que ceux prévus, ou d'un fait de répondre à tous, là on voulait répondre à une personne, ou toutes ces petites gaffes, mais c'est pas seulement des petites gaffes, c'est-à-dire je crois qu'il y a cette expérience de quelque chose qu'on ne maîtrise pas tout à fait dans le message, dans l'information que l'on donne de soi-même, et dans la divulgation, et dans les facilités de divulgation à très large échelle de contenu, de pensée ou de vie, qui restait jusque-là plutôt dans la sphère privée. Alors il y a des réflexions pour essayer de réguler ces zones mobiles, ce web en clair-obscur, comme on dit parfois, où on n'est ni dans le privé ni dans le public. Mais il est assez difficile de poser des frontières et des mécanismes de contrôle tout à fait concluants. Si bien que je pense sur cette question de la démocratisation et des attentes démocratiques liées à ces nouveaux médias, je crois qu'il y a eu un moment un peu euphorique, un moment où on s'est dit que voilà, c'était la nouvelle démocratie, la démocratie en réseau, chacun peut critiquer toute chose, chacun peut prendre position sur toute chose, il n'y a plus ce qu'on appelait ces écluses qui limitent les locuteurs, qui font qu'il y a des experts qu'on ne peut pas contester, etc. Là, bien sûr, il y a une diffusion de la critique, une diffusion de l'avis, de la possibilité de donner son avis qui est considérablement accru, mais on voit aussi tout l'envers de ces techniques de prise de parole, notamment une certaine difficulté à admettre qu'il peut y avoir des points de vue plus ou moins informés que d'autres, qu'il peut y avoir des points de vue plus ou moins autorisés, qu'il y ait une certaine autorité du savoir éventuellement. Et aussi le fait que toute la politique ne se résume pas et ne se résout pas dans les messages et ne se règle pas forcément depuis son clavier. Il y a des dimensions de la vie politique qui passent par l'instruction publique, la santé publique, la protection sociale, la gestion de territoires, d'équipements, etc. Toutes sortes de choses un peu lourdes et pesantes qui ne se résolvent pas forcément dans Internet et dans les réseaux, et par rapport auxquels une certaine idéologie du réseau n'est pas forcément en mesure d'apporter des substitutions. Voilà. Et pour finir, donc, je voulais dire tout de même un mot de la dimension dont je n'ai pas dit un mot. J'ai parlé de l'écriture comme pratique, j'ai parlé de l'écriture comme technique, j'ai même parlé de l'écriture comme mythe, mais je n'ai rien dit de l'écriture comme art. Mais au fond, je pensais précisément que par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une certaine idéologie du plus vous communiquez, plus vous êtes heureux, plus vous... Voilà, cette sorte d'économie politique du signe. Certainement, l'autre écriture, cette écriture qui est en retrait, qui naît à l'écart, qui naît du retrait et de l'écart, peut apparaître comme une sorte d'antidote éventuellement par rapport à cette compulsion de communication. Une écriture qui naît d'une certaine solitude, consentie d'ailleurs, ou pas, contrainte ou consentie, mais où la contrainte se transforme en consentement. Et pour en parler, simplement, il faudrait plutôt, je crois, faudrait céder la parole, ou la plume, ou la parole ici à des écrivains, à donner à entendre justement ce travail de l'écriture qui est autre chose que simplement la communication d'informations, qui n'est pas simplement le transport d'une information. Et je citerai seulement l'un d'entre eux, Kafka, qui notait ceci dans son journal le 25 décembre 1911. Chacun doit toujours être prêt à connaître la part de littérature qui lui revient, à la soutenir et à lutter pour elle. Je vous remercie de votre attention.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous. Tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.